Prepárate para navegar a través de las ondas hacia los sonidos más vanguardistas. Una búsqueda en un espacio sonoro de las propuestas más innovadoras y atrayentes del panorama actual. Bienvenidos a Intercase.
Hola, buenas noches. Seguimos con los últimos programas prevacacionales. Ya estamos en el penúltimo y en este caso recuperamos los especiales. En la próxima hora vas a tener oportunidad de escuchar algunos de los últimos discos del marsellés Philippe Petit en solitario y con su proyecto Strings of Consciousness. La música de este francés vendrá acompañada de fragmentos de una larga entrevista telefónica que mantuvimos el pasado mes de junio. Os dejo con el monográfico de Philippe Petit. Buenas tardes, tenemos con nosotros esta tarde aquí en Interfase al músico francés y compositor Philippe Petit, que nos va a estar hablando de sus últimos dos discos en solitario de este año 2012 para la discográfica norteamericana AGOGO. En concreto estamos hablando de los discos Oneiric Rings of On Grey Velvet y Firewalking to Wonderland. Además, Philippe es componente y creador del colectivo Strings of Consciousness. Buenas tardes, Philippe.
Buenas tardes.
Vamos a empezar con la primera pregunta. Tenemos aquí con nosotros a Willy, que nos va a hacer una vez más de traductor simultáneo, que muchas veces se me olvida presentarlo y la verdad es que es una parte ya del programa. Y vamos a entrar con la primera pregunta. Philip, no es normal que tengamos en nuestro programa un músico que ha publicado en un año tres discos. ¿Puedes hablarnos de cómo has llegado a este punto con tu proyecto en solitario y con Strings of Consciousness?
Y si puedes, brevemente, como hacemos con todos los músicos que tenemos por primera vez en el programa, introdúcenos en tu carrera musical.
Voilà. Ce n'est pas très normal de recevoir dans un programme de radio un artiste qui, en un seul an, en une seule année, a fait trois disques. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets en solo et aussi avec String of Consciousness? Et comme on fait normalement avec les musiciens que nous interviewons pour la première fois, est-ce que tu pourrais nous introduire dans ta carrière musicale?
Oui, alors en fait cette année j'ai fait même 10 disques déjà dans un premier temps et je crois et aussi que c'est beaucoup. La raison c'est qu'en fait, et ça va répondre à la question de l'introduction à la carrière musicale,
Oui.
c'est que j'ai été en fait pendant très longtemps de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai commencé en fait dans les années 80 comme DJ et animateur d'émissions radio. Ensuite, dans les années 90, j'ai commencé à faire des labels de disques. Donc, j'ai fait un label de disques qui s'appelait Pandemonium, qui a duré jusque dans les années 2000, qui était plutôt noisy, hardcore, musique improvisée, expérimentale, free jazz et choses comme ça. Et ensuite, vers les années 2000, j'ai fait un label qui s'appelait Bebop, qui était beaucoup plus tourné vers les musiques électroniques contemporaines et expérimentales. Jusqu'en 2007 ou 2005, on va dire, je ne faisais pas de musique. C'est pour ça que je disais que j'étais de l'autre côté. Donc je n'étais pas musicien. En fait, j'ai commencé donc à faire de la musique petit à petit en faisant DJ, c'est-à-dire que je multipliais les sources et il y avait de plus en plus de choses qui ressemblaient à ma musique plutôt qu'à la musique des autres. Donc c'était de plus en plus du mix compliqué et donc petit à petit, j'ai commencé à faire de la musique. Alors, voilà comment ça s'est fait. Donc ça a été en groupe avec Strings of Consciousness. Et ensuite de plus en plus solo. Et ça explique cette grosse productivité, puisqu'en fait, j'ai vraiment commencé à faire de la musique à 39 ans, quoi, tu vois. Et en solo, c'était en 2007, donc à 41 ans. Et du coup, j'ai beaucoup de choses à dire, si tu veux, parce que pendant longtemps, j'ai resté à
T'as rien
l'intérieur.
dit,
Voilà. Donc c'est un peu comme une explosion.
voilà. Mais
Voilà, donc en gros, ça donne une idée sur la carrière et une idée sur ben, tout ce qui peut, enfin, la multitude en fait de projets qui peuvent se passer. Après, on pourra voir dans le détail, mais bon, déjà.
voilà. Je te remercie.
De rien.
Bueno, en realidad, este año tres discos no, sino que realmente ha publicado 10 discos, que incluso para él es mucho, o lo considera mucho, evidentemente, quien no. Pero se explica, y eso de alguna manera va a permitir la introducción un poco a su carrera musical. Es que él empieza en 1980 y además se define este comienzo como estar del otro lado, ¿no? Entonces es DJ y también trabaja en emisiones de radio. Y a partir de los años 1990, pues crea un label de publicación llamado Pandemonium, perdón, que se dedicaba fundamentalmente pues al noisy, al hardcore y al free jazz. A continuación, que esto dura pues hasta los años 2000, y crea otro sello discográfico llamado Bebop, que se dedica más a lo que es la electrónica y al campo experimental. Por lo tanto, y ahí pasa de este lado, digamos, o de la metáfora de este lado, en el sentido de que a partir del 2005 se da cuenta de que al ir mezclando músicas, los mix se transforman casi cada vez más en su música, es decir, es un tipo de mix complicado, y cada vez menos a lo que se mezcla anteriormente, pues de otros artistas. Entonces da el salto en el 2005 y pues empieza a hacer su producción en solitario, bueno, más bien con String of Consciousness, y en solitario ya empieza en el 2007. También identifica estos 2 años con su edad particular. En el 2005 tiene 39 años y en el 2007, evidentemente, 2 años más, por lo tanto, 41 años. Por lo tanto, hay mucho que decir, mucho que poner. Se ha retenido desde los 80 a la hora de expresarse musicalmente, y eso es lo que justifica, pues, que este año, pues, tenga una producción, pues, de 10 discos.
Interfase.
Philip, ambas facetas de tu carrera, de la que conocemos, porque ahora mismo pues desconocíamos tantos discos, la que tienes en solitario como la que tienes en colectivo, a mí personalmente me parecen muy interesantes y podríamos decir que tienen puntos en común, pero a la vez son completamente opuestas. Podríamos estar horas planteándote preguntas, además, después de lo que nos acabas de comentar, pero creo que tenemos que concretar. ¿Te parece bien que comencemos hablando de tus discos en solitario, Neyric, Ringsong, Grey Velvet y Firewalking into Wonderland? Háblanos un poco de estos discos, si te parece, y cómo llegas a una discográfica norteamericana como AAGO.
Bon, Philippe, les deux facettes de ta carrière, c'est-à-dire la partie solo et la partie en collectif, nous paraissent très, très, très intéressantes. Et nous ne connaissions pas cette profusion productrice, c'est le cas de le dire. Et donc, avec encore beaucoup plus de raisons, il faut essayer de centrer un petit peu la conversation. Est-ce que tu crois que c'est juste ou adéquat le fait qu'on parle, on se centre sur les deux disques en solo qui viennent d'être publiés, Oneric Ring on Grey Velvet et Firewalking to Wonderland? Est-ce que tu peux nous parler de ces deux disques-là et aussi nous faciliter les informations, comment tu arrives en contact avec la production et le label américain Ego?
Ok, alors merci pour les compliments. Et oui. Donc, AAGO, en fait, est un label new-yorkais. On s'est rencontrés parce que j'ai toujours moi aussi des émissions radio en fait à Marseille. Donc je jouais les disques que AAGO m'envoyait dans mes émissions radio et ils trouvaient ça sympa que je les aide à faire la promotion de leur catalogue. Et moi je leur disais que de toute façon je trouvais leur catalogue très bien. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça et puis on a commencé à échanger des messages. Et puis en fait... j'avais sorti un premier album en 2007, donc c'était Henry the Iron Man, et c'était l'origine en fait de ce disque était un rêve où on m'aurait demandé en fait de faire la bande son de Eraserhead de David Lynch, qui aurait rencontré le Tetsuo de Shinya Tsukamoto. Donc c'était un disque qui était fait avec beaucoup de turntablism, beaucoup d'accidents de platine et de vinyle. Et qui était paru sur Beta Lactam Ring, un label américain, qui en général fait des disques avec Nurse With Wound, Faust, des groupes comme ça. Ce label devait faire une édition vinyle de ce disque, mais finalement ne pouvait pas le faire. Donc j'ai demandé un jour à AAGO, qu'il aimait beaucoup, est-ce que tu voudrais le sortir en vinyle? Et ils m'ont dit oui. Voilà comment ça a commencé avec AAGO. Ensuite on a fait un autre disque ensemble, qui était un Philippe Petit and Friends. Sous cette appellation, en fait, c'est un peu comme Strings of Consciousness, j'invite beaucoup d'amis à jouer, mais c'est plus acoustique, plus contemporain. Donc on avait fait cet autre disque, Ascent of Garman Brodzia, avec AAGO aussi, ça c'était en 2010. Et puis est arrivée la trilogie qui était Extraordinary Tale of a Lemon Girl, donc ça c'était 3 albums. Et j'avais envie de faire un coffret, de vraiment raconter ça sur la longueur avec un bel objet. Donc 3 chapitres. Et j'ai proposé à AAGO s'il serait intéressé par ça. Et ils m'ont dit que oui. Donc je ne vais pas révéler une histoire parce que mon propos quand je fais de la musique, c'est bien sûr de raconter une histoire, mais simplement de mettre un début et une fin. Et en fait, j'espère emmener les gens dans mon univers et qu'ils s'y sentiront bien. C'est pour ça que je me définis comme un agent de voyage musical. Et donc, c'est une histoire d'une fille citron. Donc les titres sont assez poétiques, je crois. Et peut-être parlent d'eux-mêmes. Et enfin, la musique, en tout cas, j'espère, parlerait d'elle-même, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est 3 disques qui sont très différents, mais qui vont vraiment ensemble. Et c'est un peu le cas, en fait, chaque fois que je fais quelque chose, c'est que j'ai jamais envie de faire la même chose. C'est-à-dire qu'un album, et puis un suivant, le suivant ne ressemble pas au précédent. Et le suivant encore ne ressemblera encore pas au précédent non plus. Ça doit tout le temps être nouveau. C'est pour moi, en tout cas, très 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 important. Et j'avais exactement la même démarche quand je faisais des labels de disques. Tu pouvais pas coller une étiquette dessus. Tu pouvais dire que c'était de la musique expérimentale ou que c'était de la musique cinématique ou que c'était punk ou peu importe. Mais par contre, tu pouvais pas dire très précisément, tiens, ça va être comme ça. Non. C'est thématiquement, il y a toujours quelque chose. Tu vois, il y a tout qui change. Par exemple, là, je viens de faire un album avec d'énormes guitares saturées, très doom, très, très dark, et qui s'appelle Una Sinfonia della Paura. Et c'est paru sur UTEC, un autre label américain. Et là, c'est vraiment très, très, très bruyant et donc très différent, par exemple, de ce que tu peux entendre sur Extraordinary Tale of a Lemon Girl. Qui aussi est très différente de ce que tu peux entendre quand tu écoutes Strings of Consciousness, le deuxième album donc de la trilogie avec des chanteurs que vous avez entendu. Et donc oui, pourquoi pas, ça me semble pertinent de parler de ces deux projets puisqu'ils sont très actuels, mais en même temps j'ai aussi une collaboration avec Lydia Lunch. Donc ça pourrait aussi être extrêmement pertinent. J'ai une autre collaboration avec Eugene Robinson d'Oxbow. J'ai une collaboration avec Simon Fisher-Turner, le metteur en son anglais. Enfin, j'ai beaucoup de disques où je vais inviter des amis à faire des choses avec moi parce que je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. J'ai aussi fait un disque en collaboration avec Cindy Talk. Le mois prochain, je sors un disque en collaboration avec Asva. Il y a beaucoup de choses, en fait. Donc, je sais pas, enfin, il y a des tas de choses qui pourraient être intéressantes à discuter. Mais bon, celle-ci, en tout cas, on le mérite d'être très actuelle. Et puis, comme Anthony les a entendus, bien sûr, on peut parler de ça. Oui.
Ok.
Le radio avec l'Espagne.
El contacto con Agu, que es un label neoyorquino, de alguna manera se produce cuando él es o trabaja para emisiones en su ciudad, Marsella, y los utilizaba, o más bien utilizaba lo que es el catálogo, puesto que había una empatía evidente entre lo que ellos producían y los deseos musicales de Philip. Por lo tanto, les parecía muy bien y así, de alguna manera, pues se explica el contacto entre Egu y el señor Petit. Entonces, en el 2007 publica un disco, Harry and the Iron Man, que viene a ser una especie de sueño que mezcla una banda sonora entre Lynch y Asimoto, donde hay pues muchos ruidos de plato, mucho noise de alguna forma, y se produce este disco en un label llamado, no me acuerdo la verdad, Metal Learning, creo, sí. Y exactamente. Y que de alguna manera publica discos pues de Faust y artistas similares, y que no en este en después de la publicación del CD a efectos prácticos se habían comprometido en sacar el vinilo, pero no son capaces de hacerlo por las coyunturas del momento. Por lo tanto, a través de Egu se les propone si ellos sí pueden sacar el vinilo, y como les gustaba muchísimo el proyecto, pues dicen que sí, y a efectos prácticos pues sale este disco, que eso es la concreción ya de trabajar con Egu. También a continuación sale otro disco, Philippe Petit and Friends, que viene a ser un poco la dinámica de trabajo con Stringing of Consciousness, en el sentido que se invita a muchísimos amigos, y que lo que pasa es que en este disco, pues efectos prácticos es bastante más acústico y diferente que el anterior. En cuanto al 2010, pues se produce la publicación de una trilogía que puede girar en torno al título de Extraordinary Tale of Lemon Girl, que viene a ser el cuento extraordinario de la mujer limón, y tiene tres capítulos publicados por Egu, Afecto y String of Consciousness forma parte también de este proyecto. Y que ahí nos permite entrar un poco en la visión musical del artista que estamos entrevistando, en el sentido que él pretende de alguna manera no desvelar lo que crea, sino que los proyectos tengan, me refiero a sus proyectos musicales, principio y fin, y que de alguna manera pueda introducir al oyente en este mundo sonoro y que él se sienta cómodo. Por eso tiende a definirse como un agente de viaje musical, ¿no? Es decir, se abre la puerta y hacia un universo bien determinado donde se pretende que el oyente pues encuentre su espacio y su sitio. Entonces, por ejemplo, en la trilogía de Mujer Limón y en las otras obras que hemos ido nombrando y las dos que se han nombrado anteriormente, se sigue una línea, digamos, que es coherente dentro de su incoherencia. ¿Qué quiero decir con eso? En el sentido de que no se repite nunca ningún tipo de ambiente. Es decir, los proyectos 1 nunca serán iguales a los siguientes, 2, ni el 2 al tercero, y así sucesivamente, porque lo que se pretende es ir experimentando y creando ambientes y temáticas distintas, que podrán tener elementos en común, se podrán definir o podrán tener una etiqueta de experimental o música cinemática, pero de alguna manera los temas se alejan entre sí. Por ejemplo, nos nombra la obra reciente o más reciente que acaba de grabar, que realmente es una obra oscura, con guitarra saturada y muy cercana a lo que es el Doom, por lo tanto, bastante más duro que sus proyectos recientes anteriores. Una sinfonía de la parura, si no he entendido mal. Por lo tanto, ¿le parece bien que de alguna manera se hable de estos dos discos en concreto, teniendo en cuenta que son los que hemos oído y son los más recientes y los más actuales, pero que también tiene otros proyectos ahora mismo, que son Lion Lynch, John Robinson Turner, el cineasta inglés, y con otros muchos amigos, ¿entiendes? Tiene, por lo visto, una producción pues muy, muy importante puesta en marcha. Vamos, que no se ha terminado la obra.
Interfase.
Y vamos a preguntarte por la influencia que ha tenido tu militancia pasada en el mundo radiofónico o en la prensa en tu música, pero yo creo que ya nos has hablado largo y tendido y queda de manifiesto que tú has practicado un activismo y una militancia que va desde la comunicación hasta la creación. Y lo que sí que me gustaría es que nos hablaras un poco, ahora que nos vamos a meter en Strings of Consciousness y que además ya nos has comentado algo, que nos hablaras de pues cómo empezasteis con ese un apadrinamiento de Barry Adams, aunque por cierto aquel primer disco tuvo distribución aquí en España vía Grinufos. ¿Y cómo han sido las colaboraciones con estos amigos, que compartes con estos amigos que nos estás diciendo, como Lydia Lance, los componentes de Carré 93, Wire, Oxbow, Pere Ubu o Throbbing Grizzly, que nos acabas de comentar? Si tenéis la mente y el oído abierto para nuevas aventuras, compartís objetivos, háblanos un poquito, aunque sea, ya nos has introducido brevemente.
Bon, la question qui suivait a été plus ou moins répondue dans le sens qu'on demandait quelle était l'influence radiophonique de ton passé lointain et récent en fonction de ta transformation musicale, mais dirais-je que ça a été répondu très très bien d'une manière claire. Donc on passe à la question suivante avec String of Consciousness. Il y a certains disques qui ont été, et surtout le commencement, ont reçu l'aide de Barry Adamson. Et d'ailleurs, ce disque a été publié en Espagne sur le label de Green UFOs. Et aussi, savoir un petit peu qu'est-ce que vous avez en commun. Quels sont les sons que vous avez en tête d'une certaine manière, la façon de travailler avec Lydia Lunch, les musiciens de Current 93, Wild Oxbow, et évidemment un groupe que moi j'aime beaucoup parce que je suis vieux comme la lune, c'est-à-dire Pere Ubu et Throbbing Gristle. Simplement pour en commenter certains, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est collaborer avec ces musiciens aussi prestigieux de la musique expérimentale, est-ce que vous avez des goûts communs, c'est une chose qui me paraît très normale, et est-ce que vous avez surtout vis-à-vis du futur, parce qu'évidemment à mon âge on devient poussif, la mentalité et l'oreille ouverte pour de nouvelles aventures.
Absolument. Oui. Et en fait, justement, ce qui permet d'avoir l'oreille ouverte vers de nouvelles aventures, c'est justement de collaborer avec beaucoup de gens et d'essayer de jamais faire la même chose, puisque forcément, ça te fait avancer, et ça te fait rebondir, ça te donne de nouvelles idées. Donc voilà, être tourné vers ce qui se passe ailleurs, vers les autres, voilà, je pense que c'est le meilleur moyen en tout cas pour aller de l'avant et pas devenir poussif à cause de notre grand âge.
Oui, oui.
et ensuite, en fait, bon, pour ce qui est de tous ces gens que vous citez, qui sont bien sûr avant toute chose des gens que j'ai écoutés il y a très longtemps et que j'aime beaucoup, bien sûr, et que j'ai pu connaître. Et là, encore une fois, c'est tout mon activisme radio, c'est tout mon activisme quand je faisais des fanzines ou quand j'écrivais pour des magazines. C'est tout des choses qui m'ont permis, en fait, de faire des articles sur eux ou de les aider à un moment donné, ou quand je faisais mon label, ou en tout cas, pour ceux que je n'aurais pas eu aidé à l'époque, comme Throbbing Gristle, par exemple, Cosé Fanny Tucci, donc, avec qui j'ai fait un disque, ça m'a au moins, en tout cas, permis de gagner un certain respect, parce que ben, quand j'arrivais, ben, j'étais pas complètement quelqu'un qui avait rien fait, donc ça permettait au moins déjà de discuter. Et ensuite, ben, elle a aimé ma musique. C'était la même chose avec Lydia Lunch. On se connaissait en fait depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis, ben, elle a beaucoup aimé ce que je faisais. Donc, elle a accepté qu'on essaye de faire des choses ensemble. Et ensuite, on a commencé à aller sur scène ensemble. Et voilà, et collaborer avec des personnes de cette envergure et de cette classe, c'est toujours très très plaisant. Et ça nous moi, ça m'apprend beaucoup. bien sûr, en plus de me faire avancer, ça me fait avancer vraiment dans de bonnes directions. Et c'est jamais gagné, parce que quelque part, c'est pas des gens qui ont besoin de toi. Qu'ils le fassent avec toi ou qu'ils ne le fassent pas, ça va pas faire avancer leur carrière d'une façon, tu vois, plus que ça. Mais par contre, c'est toujours sympa quand ils le font et que ça se passe bien. Et pour l'instant, c'est voilà comment on travaille, quoi. C'est plus un rapport naturel. C'est comme un mouvement, en fait. Si tu vas vers quelqu'un et puis tu tends la main, il la prend et puis hop, on fait quelque chose. Bon, ben voilà, c'est la même chose. Ça reste toujours des mouvements naturels pour moi et pour eux, des mouvements très naturels que d'accepter ou de refuser. Il y a des gens qui refusent aussi, tu sais. Il y a des fois des gens à qui je dis on fait quelque chose et puis qui me disent non, là je peux pas, j'ai pas le temps. C'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. Voilà quoi. Et donc Barry Adamson, ça s'est fait en fait qu'on avait ce disque de Strings of Consciousness qui était quasiment fini en fait. Et j'étais en contact avec une personne qui travaille pour lui et qui fait le label Central Control International, qui est donc le label qu'il a développé, mais pour sa musique au départ. Et en fait, cette personne m'a dit « Ouais, on aime beaucoup ce disque que vous avez fait avec Barry. » Et donc, du coup, j'ai dit « Mais écoute, moi, j'aimerais bien que Barry chante sur un morceau, parce qu'il y a un morceau encore où il nous manque un chanteur. » Donc, il a dit « Oui, il a chanté sur ce morceau. » Et nous a dit « Mais moi, j'aimerais bien le sortir, ce disque. » Et du coup, on a été le premier groupe qu'il a signé sur son label. Donc, c'était super, parce que on aimait bien sûr beaucoup Barry Adamson, ne serait-ce que pour ses albums solo, mais pour moi, en tout cas, c'était surtout Magazine qui me parle beaucoup. Et aussi, j'ai eu la chance de le voir avec Nick Cave plusieurs fois, notamment dans Birthday Party en 82 à Londres. Donc c'était vraiment quelque chose qui me faisait très plaisir. Et voilà, donc on a fait ce disque sur Central Control International, et du coup ça a été distribué par Green UFO. En Espagne, c'est pas Green UFO qui l'a sorti, mais c'est Green UFO qui l'a distribué. Green UFO distribuait en fait aussi tous les disques de bebop au début des années 2000, et moi j'avais un très bon rapport avec Rafa là-bas, parce que je trouve qu'il fait un très bon boulot, et je trouve que Green UFO est un excellent distributeur. Après, ils n'ont pas pu continuer à travailler avec bebop parce que on vendait pas assez de disques. Enfin, c'était un peu compliqué pour eux parce que ça leur demandait beaucoup de dépenses pour pas assez de rentabilité. Mais en tout cas, c'était un plaisir qu'ils distribuent à nouveau des musiques où je collaborais à un moment, quoi. Voilà. Et donc, enfin, voilà un peu comment tout ça s'est fait. Comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup l'Espagne. Je vais à Barcelone depuis des années, depuis le début des années 80, puisque j'habite à Marseille, donc c'était pour moi facile d'aller à Barcelone. Et j'essaie d'y aller aussi souvent que je peux, parce que c'est vraiment une ville qui me fascine, que je trouve très très intéressante. J'y étais récemment pas mal de fois, puisque j'ai une collaboration avec Murkoff, qui vit à Barcelone, et on a joué ensemble pour le LEM Festival en octobre, et ça c'était super bien. J'ai pu aussi, il y a 3 semaines de ça, aller jouer à Madrid au Reina Sofia Museum avec Murkoff, justement. Ça c'était vraiment super aussi. Enfin voilà, pour moi c'est toujours un plaisir d'aller en Espagne, en tout cas, et voilà. Donc c'est cool que des collaborations le permettent.
En el sentido de la pregunta que le hemos realizado, en el sentido de saber lo abierto del oído, si todos estos músicos son capaces de avanzar hacia un futuro creativo importante, pues nos define claramente el espacio. Es decir, colaborar con mucha, mucha gente, hacer cosas diferentes, ir hacia los mundos sonoros de los demás, solo puede producir, pues eso, más producción, más universo sonoro, más experiencia, sobre todo para él. Los conocía, evidentemente, de su tiempo de activismo radiofónico, que viene a contestar un poco a la pregunta anterior, y cuando escribía prensa musical. Por lo tanto, les permitía de alguna manera pues entrevistarlos, favorecer su obra, conocerlos personalmente, ayudarles, tener contactos con los labels y las productoras. Por lo tanto, al entrar en contacto ya con ellos, no era un desconocido, sino una persona que vamos, que era del medio, y se hicieron un placer oír su obra naciente. Lidia Lunch, por ejemplo, pues le gustó muchísimo lo que Philippe hacía y aceptó colaborar con él en creaciones musicales y luego finalmente incluso colaborar de manera directa en el escenario, ¿no? También con Robin Grissel, que tiene de hecho un disco con ellos, pues Stephanie también le gustó muchísimo el tipo de música que él hacía, pues todo fue de alguna manera realizándose de una manera natural. Entonces, esa naturalidad la quiere enfatizar también, porque eso significa que de alguna forma vas hacia las personas, produce un placer oír la música de cada cual. Y todo se hace de una manera divertida y enfatiza lo que acabo de decir hace un momentito, que es una relación natural, que tú tiendes la mano a un músico, a efectos prácticos él te la devuelve, aunque en ocasiones pues también hay un nos, es decir, que tú te acercas a un mundo sonoro bien determinado, llevado por una persona, y por razones de o agenda o de incapacidad en este momento de poder colaborar, pues este tipo de situación no se produce. En cuanto a la producción inicial de Story of Consciousness, Barry Adamson, puesto que le preguntábamos sobre él, pues trabajaba dentro de una productora que es Central Control International.
Es el propietario.
Pero digamos que trabajar en el sentido de ser, sí, de haber sido trabajado como artista a través de sus obras y haber dado el salto.
De allí, por cierto, ha salido también Matana Roberts.
Sí.
Que hablamos tú y yo un día.
Sí, sí.
Bueno, continúa.
Y entonces fue un enorme placer poder pues trabajar con ellos, que les había gustado muchísimo el trabajo de Philippe, y era evidente que a través de Central Control International pues todo giraba en torno a la carrera solo de Barry Adamson, pero hemos querido también recordar evidentemente al bajista de Magazine, puesto que ya digo que somos momias, pues a efectos prácticos también está ese placer de recordar y las cosas que teníamos en común un poco con este movimiento que surgió cuando éramos más jóvenes, ¿no? O menos viejos. También tuvo la ocasión de verlo tocar con Nick Cave en 1982 en Londres y recalcar que de alguna forma esto también llegó a España, como lo habíamos dicho, a través de la distribución de Green UFO, que de parte Philippe pues lanza una alabanza extraordinaria hacia este sello distribuidor de alguna manera, y hacia Rafa, que es el que estaba detrás.
Sí, Rafa López.
Rafa López, teniendo en cuenta que ellos también se encargaron de la distribución de uno de los labels que mencionamos anteriormente, que era Bebop. Se interrumpieron las relaciones porque tampoco la distribución pues era muy, muy, muy enorme por este tipo de motivos, pero que, bueno, así se cierra un poco el círculo de información que no nos acaba. Entonces, terminando un poco, a través de Green UFO y a través de la cercanía, puesto que él vive en Marsella, pues viene muchísimo a España y tiene una ciudad fetiche que le fascina, que es Barcelona. De alguna manera, pues tiene muchos proyectos, sí, sí. Viene, digamos, desde los 80 a Barcelona, por lo tanto ha visto crecer la ciudad, ha visto ver un poco pues todos los movimientos musicales que han podido salir en la ciudad condal,
y los festivales,
¿no? Y los festivales, evidentemente, y luego también tiene otra faceta colaborativa con Murkoff, que bueno, en el octubre del 2011 tocaron juntos, y también hace muy poco tiempo estuvo en Madrid, en el Reina Sofía, de nuevo colaborando con
nosotros.
Sí.
Interfase.
Thank you.
Okay, Philippe, we left you with your daughter. Thank you very much for your attention. And also, Guillermo, gracias a los dos por haber estado, uno por la traducción, otro por la atención que nos has prestado.
Es nada, muchas gracias a vosotros y bueno, espero que mi vejez no ha sido un obstáculo a la hora de recordar viejas momias musicales.
Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Tu remercies Anthony en tout cas.
Thank you. Yeah.